Et maintenant, un bon boîte de casque.
Ghost Stories, vous êtes en train de créer un bon gros buzz là-dessus. On peut savoir ce que c'est?
C'est un jeu coopératif. En fait, pour 4 joueurs, 3 joueurs, 2 joueurs ou 1 joueur qui peut coopérer tout seul. Mais bon, Ghost Stories est un jeu où en fait nous allons incarner des moines taoïstes qui vont défendre un petit village de Chine contre les assauts furieux des fantômes tout au long de la nuit. Fantômes menés par le chef des 9 enfers, à savoir Wu Feng le Terrible. Wu Feng qui va essayer de s'emparer du village. Et donc tout au long de la nuit, on va défendre le village contre ces fantômes. Le but étant à la fin, lorsque Wu Feng va se matérialiser dans le village, de réussir à le détruire avant que le jour ne se lève, parce que sinon à tout jamais les ténèbres s'abattront sur l'Empire du Milieu et le reste du monde et l'univers et la galaxie. Il n'y aura plus de guacamole et ça c'est super moche.
C'est un jeu familial ?
C'est un jeu pour gamers. En fait là on sort de notre créneau habituel qui est le party game. Donc ça va probablement dérouter un peu les gens, mais on a vraiment... il faut savoir qu'à la base, on est des gamers nous-mêmes. On adore les jeux qui soient un peu plus gros. On adore les party games, on adore jouer. Donc là, on est tombé sur ce jeu qui était vraiment une perle et qu'on a essayé encore d'améliorer avec le concours d'Antoine. Et surtout les illustrations de Pierrot qui sont magnifiques.
On parle d'Antoine Boza et de Pierrot.
Antoine Boza et Pierrot la Lune pour les intimes. Personnellement je suis vraiment ravi du résultat et si je sors de la peau de l'éditeur et que je mets le joueur à cette table, je vais dire putain, j'adore ce jeu, j'ai vraiment envie d'y jouer, c'est trop trop bien.
Ça je couperai.
Non, c'est moche. Je veux pas que tu coupes ça parce que c'est vrai. Voilà. Bon, pour résumer, je l'ai dit, on est dans un village, donc à chaque tour, on va pouvoir déplacer son personnage, effectuer soit des actions qui sont les actions du village, donc demander le soutien des villageois, ou bien tenter un combat, un exorcisme des fantômes. Sachant que chaque fois, les choix vont être cornéliens, c'est est-ce que je vais plutôt combattre ce fantôme qui va me donner tel bonus, ou est-ce qu'au contraire, je vais jouer de façon plus sécurisée pour nous essayer qu'on ait un avenir un peu plus serein. Et sans arrêt, il y a des tonnes et des tonnes de choix à faire. Le jeu est sans arrêt renouvelé. À savoir que les tuiles du village sont sans arrêt placées différemment, les rôles des joueurs sont différents, chaque joueur peut en tenir 2 rôles différents, et l'arrivée des fantômes en plus et des incarnations du méchant Wu Feng sont à nouveau aléatoires, et ça nous permet vraiment un renouvellement des parties incroyable.
L'histoire du jeu, la création d'Antoine Boza, on peut en dire un mot ?
Mais donc Antoine nous a présenté le jeu à Cannes. Il faut savoir que ça se connaissait dans le milieu des joueurs et des auteurs de jeux, qu'on était des très grands fans de ce genre de jeu. Il nous l'a présenté à Cédric parce que je n'étais pas là. Cédric m'a dit, il y a un super chouette jeu, il faut que tu le testes. Bon, à la moitié de la partie, on a téléphoné à Antoine pour lui dire, ton jeu, on le veut. Les bases sont excellentes, c'est très original. Ça change par rapport à tous les jeux coopératifs à l'heure actuelle. Qui ne sont pas nombreux, c'est d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Ce qu'Antoine avait peut-être peur au début, c'est qu'on change le thème, alors que nous, le thème, on l'adore. C'est clairement un thème de geek. Mais c'est un thème ultra porteur, tout le monde a un peu joué avec les fantômes, etc. Le fait de placer ça dans l'Empire du Milieu crée un thème fort, etc. Donc tout ça a fait une alchimie incroyable qui a permis au jeu de se développer et qui a permis aussi de développer des mécaniques qui ont renforcé le thème. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses, sans entrer dans les détails, mais il y a des fantômes qui ont des pouvoirs qui s'intègrent parfaitement à la mécanique. Les joueurs vont pouvoir prendre des marqueurs de Tao qui vont leur permettre de détruire plus facilement les fantômes, etc. Et donc, notre volonté était vraiment de reprendre les termes de ces cinémas de genre, de ces films de genre. Et donc, le tout fait vraiment un objet qui est, tout en étant tout à fait un jeu avec de l'ambiance et une thématique forte, un vrai jeu avec une mécanique à l'allemande. Donc, c'est un jeu qui est à la croisée de deux types de gaming, c'est-à-dire le gaming américain, prôné par FFG avec beaucoup de règles très lourdes, et le gaming à l'allemande avec des règles simples, parfois quand même pas simplistes, mais avec une mécanique bien pensée, facilement appréhendable.
On va dire ça.
Appréhendable. Quand les deux font que le jeu permet de se renouveler, créer une tension très très rapidement, des choix énormes, tout en étant vraiment un vrai moine avec une vraie peur, une vraie panique à défendre le village.
Donc là, on retrouve le côté repos dans le fait de prendre des risques, le côté cojones dont on parlait à Nuremberg.
Oui, c'est sûr qu'il y a clairement ce côté coronesse, mais les joueurs ne vont pas dire coronesse, de première chose.
C'est pour l'extension.
Voilà, ça sera pour l'extension, je ne pense pas. Par contre, ce qui est très sûr, c'est que c'est un jeu où il y a une phase d'apprentissage. Dans le jeu, volontairement, on a mis 4 niveaux de difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous très bien qu'au fur et à mesure des parties, les joueurs vont progresser, vont devenir de plus en plus forts. Et le système permet de leur proposer des challenges de plus en plus élevés. Ce qui permet aussi d'offrir une rejouabilité énorme au jeu. Parce que quand on a simplement une incarnation de Wufeng à détruire, c'est autre chose que quand on en a 4. Ce que l'on voulait aussi dans le développement du jeu, c'est non pas diminuer la force des joueurs, mais augmenter la force du mal. Pourquoi ? De nouveau, pour confronter les joueurs à des gros choix de stratégie, pour qu'ils s'adaptent, qu'ils se rendent compte que quand ils jouent à 4, à 3, à 2 ou tout seul, c'est pas la même chose. Autre choix éditorial qu'on a fait, en accord avec Antoine, etc., c'est pour la version solo qui n'était pas dans le jeu à la base, c'est que plutôt que de permettre aux joueurs de jouer 4 joueurs différents, ce qui est pour moi un artifice et grossier, il y a un seul joueur. Quand un joueur joue seul, il est tout seul face au village, il y a des adaptations de règles, une petite règle en plus, mais le mec, il est tout seul pour répondre et pour défendre un village en entier. Ce qui est très très prenant, ce qui permet vraiment au joueur de se sentir attaqué par le jeu, mais aussi d'avoir toute la valorisation quand il tue des fantômes et quand il gagne la partie.
D'ailleurs, à ce propos, on a mis à l'intérieur de la boîte une feuille de score qui permettra aux joueurs de noter leur score et de pouvoir tenter de s'améliorer et aussi de se remémorer regarde les toutes premières parties qu'on a fait, comment on s'est fait avoir. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce genre de jeu, les joueurs vont de toute façon perdre leur première partie. Ou alors ils sont méga doués. Mais c'est le genre de jeu, comme Thomas le disait, qui demande un apprentissage. Les premières parties, les joueurs vont forcément les perdre, acquérir de l'expérience, acquérir de la technique et enfin pouvoir dire « Ah, ça y est, on l'a battu maintenant, essayons de faire un meilleur score ». Une dernière chose pour rappeler ce que Thomas disait au sujet du développement d'Antoine, il faut savoir qu'Antoine est parti du thème. C'est vraiment le thème qui a servi de base au jeu, et après le jeu s'est construit autour de celui-ci.
Pierrot a énormément travaillé aussi sur l'ergonomie, etc.
Même la nuit apparemment.
Même la nuit dans sa geôle.
Ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est Pierrot qui est venu nous chercher. Hein. Nous au début, on a signé le jeu avec Antoine, une semaine après on a reçu un mail de Pierrot en disant « Bonjour, je voudrais être l'illustrateur ». On lui a dit, écoute, Pierrot, c'est sympa, on t'aime bien.
Comment tu sais déjà ?
Voilà, ils se connaissent. Hein. Bon, puis Pierrot, on l'a déjà croisé sur plusieurs salons. Apparemment, il avait déjà bêta-testé le jeu à l'époque avec Antoine. Et on lui a dit, écoute, Pierrot, d'une part, combien ça coûte ? Bon, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations à faire. Et puis, on n'imaginait peut-être pas toujours ton style graphique à toi. Il nous a dit, attendez. Et 2 jours après, on a reçu une illustration d'une Maleficent, c'est-à-dire d'un fantôme féminin. Qui est mi-femme, mi-brume, etc. Et disons que quand on a vu l'illustration, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire autrement que de signer avec Pierrot. Et donc, après, on s'est vengé. Donc, il a travaillé la nuit, il a travaillé le jour, il a travaillé même entre deux.
C'est lui qui a posé pour les figurines.
Pierrot n'a pas posé pour les figurines, c'est dommage, sinon on aurait eu des photos sympas. Mais par contre, il nous a fait le design des figurines qu'on a un peu imaginé en équipe, mais c'est lui qui a pondu le design final, qu'on a envoyé à un sculpteur qui a aussi fait un super boulot. Pour l'instant, on a vu que les prototypes, mais vraiment un chouette boulot de sculpture. Et on est ravis.
Le sculpteur, c'est qui ?
Le sculpteur, c'est une bonne question, c'est Grégory, dont j'ai oublié. Clavier.
Voilà, qui a fait des figurines pour Asgard, je pense. Mais c'est un figuriniste qui travaille un peu... je ne connais pas tout son panel, mais voilà, c'est un figurine professionnel qui a en plus réussi à faire en très peu de temps, dans le délai imparti, les figurines. C'est-à-dire que faire des figurines, on l'avait jamais fait. Ça prend du temps, ce qu'on ne savait pas. Et donc, il a eu en gros 3 semaines pour faire 3 figurines. Ça paraît beaucoup, mais c'est finalement pas grand-chose.
Je pense que lui aussi a dû probablement travailler la nuit.